Oui, vous asseoir. Un petit rituel comme tous les dimanches pour les retraites. Donc j'ai de la place pour les retraites de 7 au 12 septembre, 23 septembre au 3 octobre et la retraite du 19 au 24 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, en saint Matthieu, nous donne un avertissement. Qui n'a pas pris une ride? Méfiez-vous des faux prophètes, dit-il. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous avec des vêtements de brebis et qui à l'intérieur sont des loups ravisseurs. Et vous les reconnaîtrez, dit-il, à ses fruits, à leurs fruits. Parce qu'un bon arbre donne toujours des bons fruits, et un mauvais arbre donne toujours des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Il est clair, dans le contexte, que notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse, en fait, aux pharisiens de son époque, aux lévites, et aux membres du Sanhédrin qui l'écoutaient. Il s'adresse donc au clergé de son époque. C'est avant, bien sûr, l'institution du clergé de l'Église catholique, puisque notre Seigneur Jésus-Christ ne va instituer le clergé catholique que le soir du Jeudi Saint. Il est clair qu'il s'adresse donc aux autorités de l'Église des Juifs de l'époque. Et je pense qu'on peut dire que cet avertissement est valable aussi pour nous aujourd'hui, plus que jamais. De qui parle-t-il quand il parle de ces faux prophètes? Qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom du Seigneur, qui annonce des choses que le bon Dieu lui a demandé d'annoncer. Donc il y a deux sortes de faux prophètes. Il y a d'abord ceux qui, au lieu de parler, s'taisent. L'Écriture sainte appelle ce genre de personnes les chiens muets. C'est pas très gentil, mais c'est comme ça. Les chiens muets. Les chiens muets sont les prophètes qui devraient parler. Le bon Dieu leur a demandé d'annoncer certaines choses, ils se taisent. Au lieu de remplir leur devoir d'État, ils se taisent. Et puis, il y a un autre type de mauvais prophète, c'est ceux qui parlent, mais qui n'annoncent pas ce que le bon Dieu leur a demandé d'annoncer. Ils annoncent autre chose. Ils suivent leur volonté, ils suivent la volonté de celui qui les a envoyés. Ça s'appelle les menteurs. Il y a soit les chiens muets, ceux qui ne parlent pas, soit les menteurs, ceux qui annoncent des choses que le bon Dieu n'aura jamais demandé d'annoncer. Donc, ils cachent la vérité et qui annoncent autre chose en faisant croire que cette autre chose qu'ils annoncent vient de Dieu, alors qu'en fait, ça vient de leur propre fond. Et on peut comprendre mieux ces choses-là avec la deuxième comparaison que prend notre Seigneur Jésus-Christ quand il parle des fruits. En fait, il y a trois sortes d'arbres. Il y a des arbres qui ne donnent pas de fruits du tout, il y a des arbres qui donnent des bons fruits, et il y a des arbres qui donnent des mauvais fruits. Les arbres qui donnent des bons fruits sont des vrais prophètes. Ceux qui prêchent et qui annoncent que le bon Dieu leur a demandé d'annoncer, même au prix de leur vie. On voit très bien dans l'Ancien Testament, beaucoup des prophètes de l'Ancien Testament ont eu des persécutions terribles. Beaucoup sont morts martyrs. Je crois que c'est Élie qui a été scié en deux avec une scie en bois par les Juifs. Alors, les arbres qui donnent des mauvais fruits sont les arbres qui représentent les prophètes qui mentent. Et les arbres qui n'ont aucun fruit représentent les chiens muets. Et je crois qu'on peut facilement faire l'application de ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ en son temps à l'époque actuelle. L'époque actuelle est pleine de faux prophètes. Souvent, les fidèles, ça m'arrive régulièrement, me demandent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il qu'on soit tombé aussi vite? Comment se fait-il que la foi catholique ait pratiquement disparu en France? Je crois que le chiffre officiel, je vous l'ai déjà dit, de la pratique religieuse en France, pour l'Église catholique, au moins, même prise en général, de 2,5%. Les gens me demandent, mais monsieur Lévy, pourquoi? Comment se fait-il que, alors que tout était encore catholique, tout en Pie XII, comment se fait-il que les gens aient perdu la foi si rapidement? La réponse, elle est là, à cause des faux prophètes. Et qui sont ces faux prophètes? Ces faux prophètes sont les prêtres. Qui, à partir des années 58, la mort du pape Pie XII, ont changé la prédication. Au lieu de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, au lieu de prêcher le message de la rédemption par la croix, au lieu de prêcher les trois concupiscences, de prêcher la lutte contre les trois concupiscences, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, l'orgueil, par les trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, au lieu de prêcher et d'annoncer la parole de Dieu, résumée dans la loi naturelle, résumée dans la loi des 10 commandements de Dieu, ils ont changé la prédication. Au lieu de tout vouloir centrer sur Dieu, ils ont commencé à tout vouloir centrer sur l'homme. Au lieu de prêcher la liberté, au lieu de prêcher les trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ils ont commencé à prêcher la liberté, l'égalité, la fraternité. Au lieu de rappeler la loi des 10 commandements de Dieu, ils ont prêché à longueur de journée les droits de l'homme. Au lieu de tout centrer sur Dieu, ils ont tout centré sur l'homme. Ils étaient à la fois des chiens muets parce qu'ils n'ont pas parlé, annoncé ce qu'ils devaient annoncer, et ils ont enseigné un mauvais message, un faux message. Et la France a perdu la foi. Et ce qui s'est passé en France, ce qui est peut-être plus net en France, c'est malheureusement passé dans pratiquement le monde entier. Alors, mes bien chers frères, il faut demander la grâce pour nous prêtres, moi prêtre qui vous parle justement de la grâce de jamais être un faux prophète, de jamais être un chien muet ou un prophète menteur, mais d'enseigner notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul le disait, nous n'avons qu'une seule chose à enseigner, notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et on peut mettre en parallèle cette prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ sur les faux prophètes avec une autre prophétie, bien plus récente celle-là, qui date de 1846. En 1846, la très sainte Vierge Marie est apparue à deux petits bergers, à la Salette, près de Grenoble, en Isère. Mélanie Calva, Maximien Giraud. Et dans ce message de la Salette, qui a été reconnu par l'Église, qui a été reconnu par le pape Pie IX, puis par le pape Léon XIII, par le pape Saint Pie X, contrairement à ce que disent certains traditionalistes, le message de la Salette est parfaitement sûr, a parfaitement été reconnu par l'Église. Ce message commence par cet avertissement, les prêtres, mes prêtres, les disciples de mon divin Fils sont devenus des cloaques d'impureté. Et plus loin, Notre-Dame dit, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. En 1846, sous Pie IX, un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. Et à l'époque, c'est une des raisons pour laquelle l'Église a été très prudente avant de reconnaître la légitimité du message. Les évêques qui faisaient les investigations demandaient à Mélanie Calva et à Maximin Giraud, mais qu'est-ce que ça veut dire? Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Et les enfants ont toujours répondu la même chose, on ne sait pas, mais c'est ce qu'elle a dit. Eh bien, c'est exactement un avertissement pour notre temps. Aujourd'hui aussi, malheureusement, pas simplement les prêtres en général, tout dans l'église de Vatican II, c'est manifestement, hélas, très clair, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté et Rome a perdu la foi et est devenu le siège de l'Antéchrist. Alors je crois que la première des choses qu'il faut faire, c'est se maintenir dans l'humilité, pour vous et pour moi. Parce que si autour de nous, tant de prêtres ont perdu leur foi, si autour de nous, des millions de catholiques ont perdu leur foi, qu'en est-il de nous? C'est la question qu'on peut se poser, moi c'est la question que je me pose tous les matins. Pourquoi autour de moi, tous les prêtres modernes que je peux rencontrer, pourquoi ils ont tous perdu leur foi? Pourquoi moi je les gardais? La réponse n'est pas parce que l'abbé Lafitte est mieux que les autres, c'est pas du tout ça la réponse. La réponse, c'est que le bon Dieu aime d'un amour tout particulier l'abbé Lafitte, c'est ça la réponse. Et pourquoi est-ce que le bon Dieu aime l'abbé Lafitte d'un amour tout particulier? J'en sais rien du tout. Et ce que je dis pour moi, c'est valable pour vous aussi. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous combien de personnes ont gardé la foi. Un tout petit nombre. Alors pourquoi est-ce que vous avez gardé la foi et pas le voisin? Ah ben c'est que je suis meilleur que les autres. Mais non, le bon Dieu vous aime d'une façon toute particulière. Et donc je pense qu'il y a deux sentiments qui doivent être en nous actuellement. D'abord un sentiment d'action de grâce pour remercier le bon Dieu de nous avoir conservé la foi. Et en même temps, sentiment d'humilité, pour bien comprendre que c'est un don gratuit de Dieu. Que c'est un don gratuit de Dieu. Mais n'oublions pas que, puisque vous et moi, nous avons plus reçu que les autres, il va falloir plus donner. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est en droit de demander davantage à celui qui a plus reçu qu'à celui qui a moins reçu. Le jour où je veux paraître devant Dieu, le bon Dieu va me poser cette même question qu'il va poser à chacun d'entre nous en compte de ta gestion. Mais il exigera beaucoup plus de moi parce que j'ai plus reçu. C'est pareil pour vous. Et c'est là qu'il faut utiliser ce que dit l'évangile encore d'aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent la parole du bon Dieu et qui la mettent en pratique. Ceux qui écoutent la parole du bon Dieu et la mettent en pratique, c'est quoi? Ce sont les arbres qui donnent des bons fruits, justement. Vous voyez comment la parabole explique justement ce que notre Seigneur Jésus-Christ va donner à ses disciples dans la suite de l'Évangile. Donc méfions-nous des faux prophètes. Et demandons au bon Dieu avec grande humilité cette grâce de conserver la foi. On voit tout autour de nous des gens qui ont conservé la foi. Moi-même j'ai connu des tas de prêtres, je me rappelle quand j'étais au séminaire, qui étaient fermes, qui étaient des bons séminaristes. Qui maintenant, malheureusement, a accepté la nouvelle messe. Il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes confrères qui était avec moi au séminaire, il est mort. Un des premiers prêtres de Monseigneur Lefebvre, il est mort, et lui, il avait même accepté la nouvelle messe. Et il disait la nouvelle messe, et il avait des filles qui servaient à son hôtel. Des enfants de cœur qui étaient des filles, il avait tout accepté. C'est là où on se dit, mon Dieu, je ne suis pas meilleur que lui. Donc sans votre grâce, il n'y a pas une bêtise qu'a fait le voisin que je ne suis pas capable de faire. Et même, on peut aller plus loin que ça. On peut aller jusqu'à dire, si d'autres avaient reçu les mêmes grâces que moi j'ai reçues, ils seraient sans doute 10 fois plus saints que moi. Parce que vous et moi, on a tendance peut-être à ne pas utiliser suffisamment les grâces du bon Dieu. Donc attention à cet avertissement de notre Seigneur. Ne devenons pas, pour les gens dont nous avons la charge, des faux prophètes. Encore une fois, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent la parole du bon Dieu, qui la mettent en pratique. Dire ceux qui ont la charité, c'est-à-dire la pratique de la foi. La foi ne suffit pas. Ceux qui écoutent la parole du bon Dieu, c'est la foi. Qui la mettent en pratique, c'est la charité. On sera jugé le jour de notre mort, non pas sur notre degré de foi, sur notre degré de charité, ce n'est pas pareil. Charité, c'est quoi? C'est l'obéissance à la loi de Dieu. La foi ne mène pas au ciel. Le démon a la foi. Il a une foi non formée par la charité, mais il a la foi. Le démon, il croit. Vous demandez au démon s'il croit à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au Saint-Sacrement ici. Et voir ce qu'il va vous dire. Bien sûr qu'il y croit. Est-ce que le démon croit que notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu? Bien sûr qu'il y croit. Est-ce que le démon croit que la Sainte Vierge est vierge immaculée et mère de Dieu? Bien sûr qu'il y croit. Il a la foi, mais il n'a pas la charité. Il ne l'aura jamais. Il est intéressant de voir, j'utilise souvent les différents textes du bréviaire pour expliquer l'évangile du jour, comme par hasard en ce moment, au bréviaire, dans le premier nocturne, c'est-à-dire la première partie des matines, le fils de la nuit, on a l'histoire de Salomon. Salomon, c'est le fils de David, celui qui a succédé au roi David. Et Salomon s'est retrouvé roi assez jeune, et il a supplié le bon Dieu de l'aider. Et le bon Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Vous connaissez l'histoire, Salomon a demandé la sagesse. C'est magnifique comme demande. Il a demandé le don de sagesse, c'est-à-dire le don de jugement. Et le bon Dieu lui a dit, parce que tu as demandé la sagesse et tu n'as pas demandé la tête de tes ennemis ou de l'argent ou des grandes richesses, je te donnerai la sagesse. Et en plus, je te donnerai tout ce que tu ne vas pas demander. Je te donnerai les richesses, je te donnerai le pouvoir sur tes ennemis, je te donnerai un pouvoir énorme comme roi. Et Salomon est devenu un des plus grands rois de l'histoire d'Israël. À tel point que même la reine d'Éthiopie qui venait d'Afrique et qui est venue, qui a entendu parler de la richesse incroyable de Salomon, donc elle est venue visiter Salomon. Et elle a dit à Salomon, j'avais entendu parler de votre richesse extraordinaire. Maintenant que je suis venu, que vous m'avez montré tous ces trésors extraordinaires, je me rends compte que tout ce qu'on m'avait dit était bien en deçà de la vérité. Et elle est devenue d'ailleurs une des femmes de Salomon. Et là, il y a un exemple terrible pour nous. Le grand Salomon, celui qui avait demandé le don de la sagesse, est très mal mort. L'Esprit Saint, l'Écriture Sainte, écrit, c'est au Livre des Rois, explique que Salomon n'a pas respecté une des règles que le bon Dieu leur avait données à tous les Juifs, de ne pas épouser de femmes étrangères, dans le sens de femmes d'une autre religion. Parce que, expliqué Dieu, si vous épousez des femmes d'une autre religion, des païens d'autres religions, vous allez vous faire contaminer par ces fausses religions. Et Salomon n'a pas suivi le conseil de notre Seigneur. Il a épousé des femmes étrangères. Il est tombé dans l'idolâtrie, et à cause de ses péchés d'idolâtrie, il est tombé évidemment dans une faute d'impureté terrible. Et malheureusement, les pères de l'Église sont très inquiets sur le salut de Salomon. Il n'y a rien dans l'Évangile, dans l'Écriture Sainte, dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Rois, qui laisse à penser que Salomon se soit converti avant sa mort. Et pourtant, il a reçu le don de sagesse. Alors, c'est là la même question qui se pose. Si Salomon, qui avait reçu un don de sagesse extraordinaire, est tombé, et n'est pas mort en prédestiné, mais est mort peut-être en damné, qu'en sera-t-il de nous, mes chers frères? Donc, encore une fois, nous rappeler la nécessité de la vertu d'humilité. Surtout aujourd'hui, je pense que c'est très important de comprendre ces choses-là. Salomon est tombé, entre autres, à cause de ses désirs de femmes étrangères, de ses péchés d'impureté qui mènent le monde. Et on voit très bien dans la vie de Salomon le lien entre ses péchés, surtout les péchés contre nature, et le péché d'idolâtrie. Et donc il faut se méfier de ce péché d'idolâtrie qui mène justement à ces péchés contre nature, parce que le péché contre nature va tordre l'âme de telle façon que les conversions sont presque impossibles. Et on voit très bien l'idolâtrie du monde moderne. Là, je voudrais dire deux mots sur cette idolâtrie qui malheureusement se voit peut-être encore plus pendant les mois d'été quand il fait très chaud. L'adoration du corps, le culte du corps. Donc, on s'occupe plus de son âme et on s'occupe du corps. Je dis toujours aux gens modernes, mais si vous occupiez de votre âme, si vous passiez pour votre âme le dixième du temps que vous passez sur votre corps, vous seriez un grand saint depuis longtemps. Les gens s'occupent de leur corps et oublient complètement leur âme. Qu'est-ce qui est important, le corps ou l'âme? Autrefois, c'est très net entre autres chez les femmes étaient capables de dire d'attirer les âmes par la beauté de leur âme. Et aujourd'hui, comme elles ne s'occupent plus de leur âme, elles attirent les hommes par leur corps. C'est la seule chose qui leur reste. Autrefois, un homme était capable de dire « Telle femme va me donner un bon exemple. Elle va m'aider à monter mon âme vers le bon Dieu. Elle va m'aider à être bon. » Au contraire, aujourd'hui, la plupart des hommes se disent « Allons vers telle femme parce qu'elle va me donner quelques minutes de plaisir. » On voit très bien comment l'adoration du corps a tout mis sur le côté. Alors, je voudrais un petit peu insister pour tous ceux, surtout, qui m'écoutent sur Internet et qui se préparent à partir en vacances, qui sont partis en vacances déjà, de ne pas oublier ces choses-là. De ne pas oublier que leur corps est le temple du Saint-Esprit, que notre âme est le temple du Saint-Esprit et que le bon Dieu nous demande de respecter ce corps qui ne nous appartient pas. Nous n'en sommes que le dépositaire. Et qu'il faut donc faire attention de ne pas tomber dans la tentation généralisée d'exposer notre corps comme le font tous les gens modernes. C'est ce qui se passe sur les plages modernes aujourd'hui. C'est Sodome et Gomorre. Regardez ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorre. Ces deux villes ont été détruites par le feu, le soufre, et à la place de la mer morte. Alors je crois, là je voudrais parler surtout à ceux qui m'écoutent sur Internet et qui ont des petits-enfants surtout, la vertu de base à mettre dans le cœur des enfants, des bébés même, c'est la vertu de pudeur. Parce que la pudeur entraîne la modestie et la modestie entraîne la chasteté. Et le démon le sait. Pour détruire la chasteté, il faut détruire la modestie. La modestie sera détruite par l'absence de pudeur. La pudeur, c'est une petite vertu. On appelle ça une petite vertu qui pousse une personne à avoir honte de se retrouver nue devant tout le monde. Et donc, c'est une vertu qu'il faut mettre dans le cœur des bébés. Beaucoup de parents ne se rendent pas compte. S'ils laissent les bébés se promener tout nus dans la maison, ils détruisent la vertu de pudeur. C'est une vertu naturelle au départ. Ils détruisent la vertu de pudeur, le bébé va être habitué à être nu à la maison. Et là, on va s'habituer à être nu dehors. Et après, quand c'est surtout valable pour les petites filles, la petite fille va devenir une jeune, une adolescente, elle va se continuer à se promener à moitié nu dehors. D'où la nécessité de se protéger par cette vertu de pudeur, une vertu qu'il faut inculquer aussi aux hommes et qui est encore plus importante, c'est la protection de la jeune fille. Une jeune fille qui a perdu sa pudeur va perdre sa féminité et va rentrer dans le féminisme. Féminisme et féminité sont complètement différentes. Il n'y a rien de plus anti-féminine qu'une féministe. La féministe, c'est quoi ? La féministe, dans le sens moderne du terme, c'est une jeune fille, une femme qui a complètement perdu sa pudeur. Elle perd sa propre dignité. Elle va perdre le sens du beau. Elle va complètement oublier son rôle dans la société. Et c'est ce que veut le démon. Alors, pour terminer, je voudrais vous lire un texte, une partie d'un texte. Pie XII, 22 mai 1941. En pleine Seconde Guerre mondiale. On pourrait se dire, pleine Seconde Guerre mondiale, de quoi va parler Pie XII ? Voilà une partie d'un discours de Pie XII aux jeunes filles le 22 mai 1941. Je vous lis ce texte, c'est une toute petite partie de son sermon qui est assez long, pour vous expliquer d'abord comment parlaient les papes. Deuxièmement, de quoi ils parlaient. Écoutez ce texte qui n'a pas pris une ride. Au-dessus de la mode et de ses exigences, il y a des lois plus hautes, plus impérieuses, des principes supérieurs et immuables qui en aucun cas ne peuvent être sacrifiés au gré du plaisir ou du caprice et devant lesquels l'idole de la mode doit savoir abaisser sa fugitive toute-puissance. Ce sont des signaux qui marquent les limites au-delà desquelles ne fleurissent pas les lys et les roses où la pureté, la modestie, la dignité et l'honneur féminin n'exhalent plus leur parfum. Mais où souffle et règne un air malsain de légèreté, de langage équivoque, de vanité audacieuse, de fatuité dans le cœur tout autant que dans l'habillement. Le bien de notre âme l'emporte sur celui de notre corps, et nous devons préférer à l'avantage de notre propre corps le bien de l'âme et de notre prochain. Dès lors, ne voyez-vous pas qu'il existe une limite qu'aucune forme de mode ne peut permettre de dépasser, une limite au-delà de laquelle la mode se fait source de ruine pour l'âme de la femme et pour l'âme d'autrui. Si certaines chrétiennes soupçonnaient les tentations et les chutes qu'elles causent chez les autres par leur toilette et leur familiarité, auxquelles, dans leur légèreté, elles accordent si peu d'importance, elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Ô mère chrétienne, ou future mère chrétienne, si vous saviez quel avenir d'angoisse et de périls intérieurs, de doutes mal réprimés, de honte mal contenue, vous préparez à vos fils et à vos filles en les accoutumant imprudemment à vivre à peine couverts, en leur faisant perdre le sens délicat de la modestie, vous rougiriez de vous-même et vous redouteriez la honte que vous vous faites à vous-même et le tort que vous causez à ces enfants que le ciel vous a confiés pour les élever chrétiennement. Et ce que nous disons aux mères, nous le répétons à nombre de femmes croyantes et même pieuses qui, en acceptant de suivre telle ou telle mode audacieuse, font tomber par leur exemple les dernières hésitations, qui retiennent une foule de leurs sœurs loin de cette mode qui pourra devenir pour elles une cause de ruine spirituelle. Tant que certaines toilettes provocantes demeurent le triste privilège de femmes de réputation douteuse et comme le signe qui les fait reconnaître, on n'osera pas les adopter pour soi. Mais le jour où ces toilettes apparaissent portées par des personnes au-dessus de tout soupçon, on n'hésitera plus à suivre le courant, un courant qui entraînera peut-être aux pires chutes. Aujourd'hui, chère fille, la croisade pour vous n'est point dans l'épée, le sang, le martyr, mais dans l'exemple, la parole et l'exhortation. Levez hautement la tête vers le ciel, d'où le Christ et la Vierge Immaculée, sa mère, vous contemplent. Soyez forte et inflexible dans l'accomplissement de votre devoir de chrétienne. Prenez la défense de la pureté en marchant contre la corruption qui amollit la jeunesse. Un texte qui n'a pas pris une rime. Et comment parler les papes ? Un pape qui parle. Vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, peut-être que ce texte, bien sûr, ne s'adresse pas à tous ceux qui m'écoutent, c'est évident. Mais je pense qu'il est bon de revenir à ces textes pour se rappeler notre devoir. Nous avons enlevé, élevé vers le ciel les gens dont nous avons la charge. En demandant, bien sûr, à la Très Sainte Vierge Marie, cette grâce dont nous avons besoin, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Demandons-lui qu'elle nous donne cette grâce de ne pas être des faux prophètes, de ne pas être des chiens muets, de ne pas être des prophètes menteurs, de ne pas être des gens qui disent simplement « Seigneur, Seigneur », mais qui ne mettent pas la parole du bon Dieu en pratique. Demandons de pouvoir suivre l'exemple d'humilité, l'exemple de pureté, l'exemple de pudeur, l'exemple de chasteté que notre Sainte Vierge Marie nous a donné, afin qu'un jour, tous ensemble, nous puissions nous retrouver au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.